Coucou la communauté des French Learners. Je continue la série Pause Café. Dans la série Pause Café, j'ai des conversations avec des personnalités exceptionnelles qui viennent du monde entier. Et si vous voulez écouter cet entretien en podcast, allez sur mon site anisayel.com. Et aussi, si vous êtes débutant en français et si vous voulez acquérir les bases du français, allez sur mon site anisayel.com parce qu'il y a des ressources, des vidéos exclusives pour acquérir le français naturellement.
anisayel.com pour acquérir le français naturellement.
Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Alison. Bonjour Alison.
Bonjour Alice.
Alison, Alice, c'est un peu...
Alison.
Mais toi, Alison s'écrit avec deux L.
Oui, et deux moi, L je... et un I. Mmh.
Et je connais d'autres Alison juste avec un L.
Oui, il y a aussi l'orthographe deux L et Y aussi.
Ah.
Aux États-Unis.
Ah, d'accord.
C'est pas très commun. Moi, je dirais que c'est numéro 3. Mais oui, ça. Je connais une personne avec Y.
Ah, moi, je ne connais personne avec Y. Et donc, tu as dit aux États-Unis, Alison, parce que tu viens des États-Unis, n'est-ce pas? Tu habites aux États-Unis?
Oui, je suis américaine. J'ai grandi aux États-Unis et j'y habite maintenant.
Et où est-ce que tu habites précisément? Parce que les États-Unis, c'est très vaste.
Oui, c'est vrai. J'habite dans le nord-est, à la Nouvelle-Angleterre, dans le Vermont.
Vermont, c'est un mot un peu français.
Tout à fait.
Vermont, j'ai appris ça. Avec des élèves qui habitent aussi dans le Vermont, n'est-ce pas?
Oui.
Est-ce qu'il y a
une chaîne de montagnes qui s'appelle les montagnes vertes. Donc, voilà.
Et oui. Et tu es d'origine, tu viens du Vermont, Alison?
Non. Quand j'étais petite, j'habitais au sud de Boston, donc dans le Massachusetts, sur la côte, on pouvait voir la mer de la fenêtre de notre salon dans la maison.
Wow!
C'était incroyable. Oui, on avait vraiment de la chance. Mais je suis arrivée dans le Vermont en 2003.
D'accord.
Donc
tu n'étais pas
petite.
Oui, tu n'étais pas petite à cette époque.
Non, non. Et je suis d'origine de la Nouvelle-Angleterre.
Oui, d'accord.
Il y a 6 États dans la Nouvelle-Angleterre, compris le Massachusetts, où j'ai grandi, et aussi le Vermont.
D'accord. Et est-ce que tu as dit, donc, quand tu étais petite, tu voyais la mer? Je suppose que tu allais à la plage aussi?
Oui. Oui, mais c'est intéressant parce que ma mère, elle adore la mer. Mais j'adore ma mère. Et la mer. Mais elle n'aime pas la plage.
Ah, ouais.
Donc, quand j'étais petite, quand j'étais une jeune fille, j'avais des amis, des copines qui sont allées à la plage avec leur maman. Et les mamans s'installaient sur les chaises au bord de la mer pendant toute la journée. Alors, mes copines sont passées toute la journée à la plage. Mais moi, ma mère, non. Et j'étais un peu jalouse de mes amis qui passaient tous les jours de l'été des vacances à la plage.
Oui, je comprends. Ouais. Ça devait être difficile pour toi.
Ouais,
tu avais envie d'aller jouer avec tes copines au bord de la mer, à la plage. Ouais. Mais je comprends aussi ta maman parce que c'est un peu ennuyeux toute la journée sur une chaise à la plage, non?
Moi, je n'aime pas beaucoup. Je n'aime pas la chaleur. Je préfère quand il fait frais et pas quand il fait chaud. Alors, si je vais à la plage maintenant, je passe 2 heures maximum à la plage et puis ça suffit.
Oui. Juste pour se baigner ou... Et puis après, tu n'aimes
lire
pas...
Lire un petit peu.
On dit en français, les gens qui restent sur la plage, tu sais, allongés sur leur serviette à bronzer, on dit qu'elles font la crêpe. Tu n'aimes pas faire la crêpe sur la plage.
J'adore cette expression. C'est bien. Oh, 30 minutes, on se tourne.
Oui, c'est ça. Pour bien bronzer des deux côtés.
J'adore.
Mais donc la mer ne te manque pas, Alison, parce que dans le Vermont, il n'y a pas de mer.
Il n'y a pas de mer, mais il y a la forêt et les montagnes. Donc, j'aime bien faire de la randonnée, de marcher dans les montagnes. Donc, c'est très facile de faire ici dans le Vermont. Mais maintenant, mes parents habitent dans le Maine, sur la côte. Et pendant l'hiver, quand il n'y a pas de feuilles sur les arbres, parce qu'en hiver, ici dans le Vermont, les feuilles des arbres tombent. Et ils peuvent voir la mer de la fenêtre de leur salon.
Encore?
Oui. Et ça, comme ça, ma mère est très contente.
Mais le Maine, c'est une région magnifique aussi, hein, je crois.
Oui, la côte est très unique. Il y a beaucoup de pierres. Il y a beaucoup de grands rochers. Il y a beaucoup de phares. J'adore les phares. J'adore les phares de la Bretagne.
Oui.
Donc, la côte bretonne, dans le nord-ouest de la France, c'est similaire à la côte du Maine.
Oui. Ah oui, donc c'est vrai que la côte bretonne est magnifique.
Vraiment. Et...
Ah, très bien. Il y a aussi, j'aime aussi les phares parce qu'il y a toujours des histoires un peu mystérieuses avec les phares. Hein?
Oui, et en fait, il y a une phare dans la ville à côté du petit village où j'ai grandi, où j'habitais quand j'étais petite, qui est située dans la mer.
Ah, oui.
Donc, ce n'est pas sur la plage, ce n'est pas sur des rochers, c'est vraiment dans la mer. Et il y a une belle histoire parce que les lumières des phares, ça clignote.
Oui. Voilà.
Donc, ça fait allumé, éteinte. Mais le rythme de cette phare, c'est 1, 4, 3. Donc, ce n'est pas un rythme systématique, c'est un peu différent. Et ça représente les 3 mots en anglais pour je t'aime, I, une lettre, love, 4 lettres, et puis you, 3 lettres. Donc, ça fait I, love you.
Wow.
Donc, c'est une belle histoire, je trouve.
Oui. Wow, je ne savais pas. Merci pour cette histoire, Alison. Hein.
Oui.
Mettez dans les commentaires si vous connaissez aussi des histoires avec les phares. C'est toujours très, très intéressant et un peu mystérieux et fascinant, les
oui.
phares.
Oui. Vraiment.
Et donc, Alison, tu parles très, très bien français. Hein. Et tu enseignes le français d'ailleurs, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, c'est vrai, oui.
Et j'ai voulu parler avec toi parce que tu n'enseignes pas le français à des adultes ou à des adolescents, comme la plupart des professeurs que je connais.
Oui.
Toi, tu enseignes à qui le français?
Les petits.
Oui.
Donc, on commence dans le kindergarten. Donc, c'est moi, je pense que l'équivalent en France, c'est la grande section.
Oui, c'est, on appelle ça l'école maternelle, en
oui.
effet. Et dans l'école maternelle, il y a la petite section.
Oui.
Les enfants peuvent aller en maternelle à partir de l'âge de 3 ans, donc très jeune, c'est la petite section. Et la grande section, donc c'est quel âge que tu as, Alison?
5 ans.
Oui.
À peu près, oui.
Oui, c'est ça. C'est la grande section, tu as raison, oui.
Donc, à l'âge de 5 ans jusqu'à 12 ans, au sixième.
Oui.
Donc, en anglais, sixth grade. Donc, c'est la seule classe où les mots français ou correspondent au système américain.
Oui,
donc,
c'est vrai.
Sixième.
C'est vrai.
Et pour les classes français, ça baisse, ça descend.
Oui.
Donc, cinquième, quatrième. Pour nous, ça monte. Donc, sixième, septième, huitième. Donc, c'est un peu difficile pour les élèves américains de « mais il est en troisième, mais il est très grand ». J'ai dit « oui, c'est le contraire ». Donc, oui. Alors, sixième, c'est le même dans les deux pays.
Oui. Et je trouve ça très intéressant que tu enseignes donc l'école maternelle et aussi l'école primaire, élémentaire. Je ne savais pas qu'aux États-Unis, il y avait des écoles où le français, ou est-ce qu'il y a d'autres langues aussi qui sont enseignées à cet âge-là?
Il y a deux écoles primaires dans mon système. Une école, la mienne, qui s'appelle Marion Cross, dans le Vermont. Et l'autre école primaire est dans le New Hampshire. Donc, c'est très, très rare.
Ah oui.
Il y a un système avec des écoles dans deux États différents. Alors, à mon école, j'enseigne évidemment le français, mais à l'autre école, c'est l'espagnol et la langue enseignée.
OK.
Et ça, je pense que c'est plus commun si il y a un programme de langue dans les écoles primaires. L'espagnol est le plus populaire, mais nous avons le programme de français à mon école date de 1960.
Oh, d'accord.
Donc, 60 ans
oui.
À peu près, il y avait une dame française qui s'appelait Micheline et elle est allée à l'école à Marion Cross. Elle donnait des cours de français volontiers. Elle était volontaire. Donc, elle est allée à l'école. Et après deux ou trois ans, les directeurs de l'école se sont dit « Hmm, c'est très intéressant ce programme. On aime le français à l'école. » Donc, ils regardaient le budget pour l'école et ils ont trouvé une prof. Et voilà, le programme de français est né à mon école.
Ah,
et d'accord. Je ne suis que la troisième prof de français à plein temps à l'école.
Parce que tu enseignes toutes les classes, chaque classe, tout.
Oui.
Tout.
Oui. Alors, il y avait Madame Lyons qui a commencé le programme. Et après, Madame Kelly, prof numéro 2, et c'est moi, prof numéro 3.
D'accord.
Pendant 60 ans.
Donc, on peut dire merci à Micheline.
Tout
c'est
à fait.
Grâce à Micheline que le programme est né.
Exactement.
Et aussi, on peut dire merci aux directeurs qui ont été intelligents de voir, de s'apercevoir que c'était une bonne chose d'apprendre le français.
Oui, oui. Et bah, il y a des personnes qui me demandent « Ah, oh, le Vermont, c'est limitrophe. »
Oui.
J'adore ce mot. Donc, il y a le Québec et juste au sud, il y a le Vermont. Donc, ils sont limitrophes. Et les personnes disent « Ah, le Québec, ce n'est pas très loin du Vermont. » Alors, vous avez le français à votre école. Et j'ai dit « Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on a un programme de français. » C'est logique qu'on habite très, très près de la frontière canadienne et la frontière québécoise. Mais c'était grâce à Micheline
qu'on
a le programme de français.
Et ça serait logique que dans tout le Vermont, il y ait ce type de programme dans toutes les écoles du Vermont, je pense. Parce que c'est limitrophe avec... Non?
Il y a beaucoup de programmes de... S'il y a un programme de langue dans une école primaire, il n'y en a pas beaucoup. Mais dans le Vermont, oui, c'est vrai que le français est plus commun que les autres langues.
Oui.
Et dans le sud des États-Unis, limitrophe au Mexique, donc l'espagnol est un peu plus populaire.
Bien sûr, oui. C'est logique. Et Alison, tu enseignes, tu n'enseignes pas de manière traditionnelle, n'est-ce pas? Tu n'enseignes pas de manière classique. Est-ce que les professeurs avant toi, tu as dit Madame Kelly, Madame Lyons, enseignaient aussi comme toi?
Madame Lyons, je ne sais pas. Mm-hmm. Je ne suis pas sûre. Mais je sais que Madame Kelly, oui, un peu. Avec les élèves de sixième, on avait un texte scolaire. Mais...
Un livre.
Oui, voilà.
Ouais.
Oui, c'est ça. Mais il y a 10 ans, c'était en 2011, j'ai jeté le manuel à la poubelle.
Wow.
Donc, j'avais un fort lien, une liaison très, très proche au manuel. J'ai dit non, c'est fini. Donc, je n'enseigne pas avec un manuel, avec des livres, les vrais livres. Et c'est un peu libérant. C'est vraiment... j'aime bien parler de mes élèves. Ils sont au centre de mon programme. Alors, c'est beaucoup plus intéressant pour les élèves, parce qu'on sait en général, les enfants aiment bien parler d'eux-mêmes. Donc, si je pose des questions et je crée mes leçons sur les intérêts de mes élèves, c'est beaucoup plus engageant pour eux.
Bien sûr, bien sûr. Et comment est-ce que tu as découvert cette méthode? Donc, c'est la méthode de l'input compréhensible, hein, oui, basée sur les hypothèses du docteur Krashen. Mmh. Comment est-ce que tu as toujours enseigné de cette manière? Est-ce que tu as changé?
Oui, c'était vraiment un grand changement. J'ai assisté à une conférence, un atelier de Carol Gobb en 2011. Et j'ai un ami qui est prof de français et d'espagnol dans le Maine. Et sur sa page Facebook, il avait des photos de l'été précédent. Mm. Et il participait à cette conférence. Et j'étais à une autre conférence et j'ai vu la publicité pour cette conférence. Mm. Alors, j'ai demandé à mon ami, hey, je vois tes photos de la conférence TPRS l'été dernier. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que la conférence t'a plu? Il a dit oui, ça a complètement changé ma philosophie pédagogique. Mm. Alors, je me suis dit, intéressant. Et de plus, c'est à Cancun. Alors, une conférence pour les enseignants de langue à la plage. Oh. Mais c'était nécessaire. J'ai dû justifier la conférence au directeur de mon école. Il a dit, prof de français, allez au Mexique, à Cancun, pour une conférence. J'ai dit, oui, je promets que c'est valable, que c'est quelque chose de sérieux. Alors, j'ai passé une semaine à Cancun avec Carol Gobb et Jason Fritz et autres de nos amis. Mm. Et quand je suis retourné à l'école, j'ai présenté la conférence à mes collègues à l'école et ils ont applaudi à la fin parce que je parlais avec beaucoup de passion parce que ça a changé ma vie. Mm. C'était vraiment une expérience dans ma carrière d'enseignant. Une expérience formative qui a vraiment changé ma vie.
Oui.
Alors, l'année suivante, en 2012, j'ai demandé à l'école de me permettre d'aller à une autre conférence. Pas au Mexique, mais à la République dominicaine. Mais cette fois, il n'y avait pas de questions. Ah. L'école, le directeur a dit, pas de problème. On sait que ça vous a donné beaucoup, beaucoup de nouvelles idées. Alors, allez-y, bonne conférence. Bon voyage. Et puis, c'était incroyable.
Très bien. Ouais. C'est très intéressant d'écouter ton expérience. Donc, tu as découvert la méthode dont tu disais TPRS, qui mm-hmm. veut dire Teaching Proficiency, c'est ça?
Oui. Through reading
oui.
et storytelling.
Voilà. Donc, tu t'intéresses à tes élèves, bien sûr, et vous inventez aussi des histoires ensemble, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Oui. Et je sais, il y avait... donc, j'ai pris une classe comme classe d'expérience. Donc, j'ai essayé ces activités et cette méthode avec une classe pour voir comment ça marche. Et c'était un succès énorme. Même une maman d'une élève m'a écrit un message et elle a dit, ma fille me dit que vous avez changé comment vous enseignez et elle adore. Donc, même les élèves pouvaient voir la différence. Et un enfant de 11 ans, de reconnaître que la classe a changé, ça m'a beaucoup touchée.
Bien sûr. Ouais.
Donc, c'était incroyable.
Bien sûr. Et aussi, c'est très important que les élèves aiment, apprécient la classe, apprécient le cours et se sentent bien, n'est-ce pas? Ça, c'est un facteur très important pour acquérir une langue.
Tout à fait, oui. Et je veux, au centre de mon cœur pédagogique, c'est que les élèves se sentent à l'aise à faire des risques. Je veux qu'ils parlent avec des fautes. Ça, c'est mieux que se taire.
Bien sûr.
Donc, dès kindergarten, les petits, ils essayent de parler français. Et si ils se sentent vraiment à l'aise et confortables dans la classe, pour moi, j'ai réussi à faire mon boulot, faire mon travail.
Oui, bien sûr, c'est très important ce que tu dis là, Alison, que ce n'est pas grave de faire des fautes. Il faut prendre des risques et parler. C'est mieux que de se taire, oui. Exactement,
absolument.
Que de rester silencieux. Parce qu'une langue, c'est fait pour communiquer, n'est-ce
pas? Exactement, oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, Alison, tu as un site web, n'est-ce pas, où tu partages des ressources pour les autres professeurs?
Oui, absolument, oui. Et je peux mettre l'adresse dans les commentaires de...
Oui, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Tu partages énormément, tu es très généreuse, Alison.
Oui. Tu partages. Je n'aime pas dire que je suis super, mais je sais. Alors, ma signe zodiaque, c'est Lion.
Ah, donc août, tu es née en août?
Oui, le 2. Ah. Et une des qualités positives des lions, c'est la générosité. Et je pense que pour moi, si je donne aux autres professeurs des ressources, je pense qu'ils sont plus... ils se sentent plus à l'aise à prendre des risques avec leur travail. Si je pars d'une activité et c'est nécessaire que les enseignantes préparent leur propre matériau, leur propre leçon, c'est encore du travail. Et Les professeurs travaillent beaucoup en général. Donc, pour moi, si je peux aider les autres enseignants de commencer à faire des activités précises ou changer leur façon de regarder les élèves et le travail, je vais le faire.
Et c'est très bien ce que tu fais. En effet, tu présentes aussi dans des conférences. Tu as présenté, moi aussi d'ailleurs, dans la conférence de The Conference in the Cloud avec Express Fluency. J'ai regardé ta présentation pour parler avec les élèves de clips, de petites vidéos sur YouTube. C'est très bien.
C'est mon activité préférée pour faire avec mes élèves, oui. Je suis passionnée par les petites vidéos pour mes élèves.
Donc, c'est vrai que c'est vraiment super ce que tu fais. C'est vrai que tu es très généreuse. Je n'avais jamais pensé à ça, Alison, mais oui, ma grand-mère était aussi Lyon. Et c'est vrai qu'elle était très généreuse.
Oui. C'est intéressant. Je ne crois pas beaucoup à l'astrologie, mais oui. Je pense qu'il y a des choses à considérer.
Oui, je suis d'accord avec toi. Moi non plus, je ne suis pas très superstitieuse. Je ne crois pas trop à l'astrologie comme toi, mais il y a quand même des choses qui sont vraies. Oui. Pour les signes.
Et de plus, ma mère m'envoie mon horoscope tous les jours. Tous les jours. Et elle pense que mon horoscope est toujours à point. Si vraiment elle pense que c'est vrai ou il y a des idées à considérer, elle dit: mon horoscope, pas beaucoup. Celui de mon père, pas vraiment, mais pour moi. Et elle a raison. Oh. Et si je parle à ma mère au téléphone et je décris quelque chose qui se passe dans ma vie personnelle ou ma vie à l'école, elle me demande souvent: est-ce que tu as lu ton horoscope aujourd'hui? J'ai dit, oui, maman. Elle dit, il faut penser à ça. J'ai dit, d'accord, maman.
D'accord. Mettez dans les commentaires si vous aussi, vous regardez, vous lisez votre horoscope tous les jours, si vous croyez un peu à l'astrologie. Mettez-le dans les commentaires.
Oui, j'aimerais bien savoir.
Et Alison, j'ai oublié de te demander comment tu as appris, acquis le français, parce que tu parles très bien. Comment est-ce que tu as fait?
À l'école, au lycée, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Mm-hmm. Avant, j'avais étudié le latin. Le latin, c'était obligatoire dans ma maison, dans ma famille.
Ah, dans ta famille.
Dans ma famille, d'étudier le latin. Mes deux frères aînés, j'ai deux grands frères, ils ont étudié le latin. Et moi, j'ai étudié le latin. Mais je voulais vraiment, vraiment étudier le français. Donc, au lycée, au collège, quand j'ai étudié le latin, mais au lycée, j'ai étudié le latin et le français, les deux. Donc, je n'ai pas suivi de cours de musique ou cours d'art. Pour moi, mon cours de choix, aux États-Unis, souvent on dit electives, qui ne sont pas les cours obligatoires.
Ce sont les options en français.
Oui. Oui. Donc, pour moi, c'était les langues. Et alors, j'ai étudié le français et J'ai appris le français avec un manuel dans la manière traditionnelle où on a passé des heures à conjuguer des verbes et mettre l'accord entre le mot et l'adjectif. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré. Mais je sais que ça ne marche pas très bien pour la plupart des élèves. Et j'ai continué à étudier le français à l'université. J'avais deux... Je me suis spécialisée en deux manières. Oui, deux domaines. Oui. La sociologie et le français. Et quand j'ai fini mes études à l'université, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec un diplôme de sociologie et français? Je ne vais pas travailler à une banque, je ne vais pas étudier la loi. Donc, je suis, Et ma mère était prof. En fait, elle était prof de français.
Ah, d'accord.
Mais on ne parlait pas le français à la maison. Et je n'avais pas pensé à devenir prof quand j'étais au lycée ou même à l'université. C'était juste une sorte d'accident. Mais 20 ans après, je suis toujours dans la classe.
Et tu ne regrettes pas ton choix?
Pas du tout. Pas du tout. Et j'ai commencé à enseigner dans un lycée. Et après 3 ans, j'ai changé d'école. Et pour moi, le lycée, c'est fini. J'adore les petits. J'adore les petits.
Oui, tu préfères enseigner à des petits qu'à des ados, des adolescents.
C'est vrai, oui. Oui.
C'est vrai qu'il y a différents types de professeurs. Hein. Il y a les profs qui préfèrent les ados, qui adorent l'humour adolescent, l'humour un peu lourd. Hein. Et il y a des profs qui préfèrent les petits, qui ont plus de patience. Je pense que tu as de la patience, Alison.
Oh, il y a des moments, oui. Pas toujours, mais de temps en temps.
D'accord. Donc, en fait, Alison, moi, je pensais, comme tu parles, tu n'as presque pas d'accent, je trouve. Tu parles très bien français. Moi, je m'étais imaginée que tu avais appris le français très petite ou que tu étais allée en France. Et en fait, tu es un excellent exemple, un modèle pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, hein, Alison. Parce que il y a beaucoup d'adultes qui pensent qu'ils sont trop vieux ou il faut absolument qu'ils aillent en France ou au Québec pour apprendre le français. Et toi, tu montres que non, ce n'est pas nécessaire, forcément non. Nécessaire, parce que tu as appris le français en fait assez... quand tu étais assez âgée, tu avais déjà 15 ans.
Oui. Oui. J'ai passé 4 mois à Paris et quelques petits stages, quelques petits séjours de 3 semaines, 6 semaines, mais je n'ai pas vécu en France.
Tu étais en voyage, c'est ça, à Paris? Oui. Donc, ouais. C'est un peu différent, oui.
Ouais.
Tu n'étais pas en immersion.
Non.
Waouh, je suis impressionnée. Hein.
Oh, merci.
Et en plus,
le français me passionne.
Et en plus, tu as appris de manière traditionnelle, comme tu as dit, avec la grammaire. C'est vrai que Stephen Krashen dit toujours que les professeurs de langue adorent la grammaire. Oui. C'est pour cette raison qu'ils sont professeurs de langue.
Tout à fait, oui, exactement. C'est moi, ici.
Mais oui, donc vraiment, c'est impressionnant et c'est aussi inspirant pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors, Alison, l'entretien touche à sa fin. J'aime bien demander si tu as un livre ou peut-être un film aussi. Maintenant, j'ai un peu changé, un livre ou un film qui t'a marqué. Pas forcément en français, si tu as lu un livre récemment que tu voudrais recommander peut-être.
En fait, il y a un livre en français que j'adore. Ah. C'est un gros livre, mais ce n'est pas très compliqué. C'est « La véritable affaire » de Henri Kébert.
Ah. Et je crois que je connais.
Ça se passe aux États-Unis, en fait, à la Nouvelle-Hampshire, qui est juste à côté du Vermont. Mais l'écrivain est français, le livre était écrit en français, mais ça se passe aux États-Unis. Et ce n'est pas un livre très difficile, mais l'intrigue, les événements du roman, c'est très intéressant. Donc, je n'aime pas beaucoup les livres de mystère, mais il y a un petit mystère dans ce livre. Donc, c'est ma recommandation.
Et tu te rappelles de l'auteur du livre ou tu ne sais plus?
Non.
Je vais regarder et de toute façon, je mettrai le titre du livre dans la description avec l'auteur. Je vais regarder.
Parfait.
Je crois qu'il y a eu un film, non? Récemment.
Oh, peut-être.
Je crois que j'ai entendu parler d'un film sur ce livre, La véritable affaire d'Henri Kléber.
Je crois que oui. Oui, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent le film L'Auberge espagnole.
Ah oui.
Mais il y a deux autres films, c'est une trilogie. Donc, il y a deux films qui suivent que j'aime beaucoup. Les poupées russes.
Oui.
Et quelque chose chinois.
Je ne sais pas celui-là.
Donc, c'est les mêmes personnages et j'adore les trois films.
Oui, c'est un film de Cédric Clapiche, je crois, L'Auberge espagnole, avec des acteurs français qui sont assez célèbres, assez fameux comme Audrey Tautou.
Oui.
Qui était dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
Oui.
Si vous l'avez vu aussi, c'est un très beau film. Et oui, L'Auberge espagnole, c'est un bon film. Oui, oui, oui. Très bien. Très bonne recommandation, Alison. Merci.
Très français.
Oui.
Très français comme film.
Et d'ailleurs, il y a une expression, l'auberge espagnole, ça vient d'une expression. Une auberge espagnole, c'est un peu un endroit où on peut aller comme ça librement. On peut dire, quand une personne invite toujours du monde chez elle, on dit « Ah, ta maison, c'est l'auberge espagnole ». Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui vient, qui sort.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi espagnole. Il faudra que je regarde.
Oui. Il y a des vaches espagnoles.
Oui. Espagnole. Parce qu'on dit aussi, oui, parler comme une vache espagnole, une langue, ça veut dire mal parler la langue. Très bien, Alison. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de parler avec moi.
C'était un vrai plaisir, un honneur.
Pour moi aussi, Alison, parce que tu fais tellement de choses pour les professeurs. Merci beaucoup. Et puis, pour terminer, est-ce que tu as un mot de la fin?
Prends des risques. prenais des risques.
Oui.
Pas uniquement avec les langues, mais dans la vie.
Oui, c'est vrai. Aussi dans la vie, prenez des risques. Et je pense que de nos jours, spécialement en ce moment, c'est très important de se rappeler de ça, qu'il faut prendre des risques.
Oui. Alors, voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Alison.
Merci à toi.
Mettez dans les commentaires si vous avez aimé cet entretien, si vous avez vu le film qu'Alison a recommandé, L'Auberge espagnole, si vous avez lu le livre aussi, La véritable affaire de
Henri Kléber.
Henri, pas Robert, Henri Kléber. Et merci encore, et puis à bientôt, Alison.
Oui, à bientôt, à la prochaine.
À bientôt.